20 ans de mandat électoral en tant que conseiller municipal, dont 9 en tant que maire de Luxeuil-Saint-Sauveur. Donc au travers de ce mandat de maire, j'ai pu appréhender toutes les problématiques qui se posent à quelqu'un qui dirige une collectivité. On a une commune qui est petite par le nombre de ses habitants, mais qui était très, très, très importante en termes de structures qu'il faut gérer. Donc c'est de l'office du tourisme, de maisons de culture, d'établissements thermales, de stations de ski, de maisons de retraite, même si elle n'est pas municipale, j'étais au conseil d'administration. Et donc, bon, après assumer le quotidien avec le conseil d'administration de l'école, le conseil d'administration du collège, donc c'est énormément de dépenses d'énergie et de prise en compte des difficultés que peuvent avoir nos concitoyens et d'essayer de trouver des solutions pour leur apporter un mieux vivre. Donc c'est ce qui a occupé une grosse partie de ma vie, à vouloir m'occuper, écouter les autres et essayer de leur apporter ce qu'ils souhaitaient. Bon, on est dans un village touristique à Luce et donc il fallait qu'il y ait des équipements qui soient au niveau de ce que les gens voulaient y trouver. Donc on a eu la chance dans les 6 dernières années de pouvoir réhabiliter des structures qui étaient vieillissantes, comme la piscine qui a été refaite, la salle des fêtes qui a été refaite. Une mairie qui n'existait pas, où on a créé des locaux pour pouvoir accueillir déjà les enfants dans de bonnes conditions, avec un centre de loisirs, donner des locaux privatifs aux personnes âgées, accompagner la DMR pour qu'elle puisse être plus efficace en lui permettant d'évoluer dans de bonnes conditions, créer un visio-guichet, un outil d'aujourd'hui pour permettre aux jeunes de leur éviter des déplacements coûteux et longs pour aller exercer certaines démarches qui se faisaient par écran interposé. Un point emploi qui avait été créé par la collectivité. Alors vous dites, bon, il nous parle beaucoup de Luce, mais aujourd'hui on est là pour essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on peut apporter, quel engagement on peut apporter. Bon, moi j'ai pu au travers de toutes ces choses-là exprimer un peu le caractère social qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours poussé, d'être près des autres et de vouloir leur amener le confort qu'on peut attendre aujourd'hui, y compris dans la ruralité, parce qu'on a tendance à voir aujourd'hui les choses se concentrer dans le milieu urbain, et il faut qu'on défende cette ruralité. Donc, je voulais dire aussi qu'au travers de ce mandat, j'ai pu représenter la collectivité au sein du syndicat mixte du pays des Vallées des Gaves. J'ai travaillé à côté d'André Peugeot, j'ai travaillé un peu à côté de Viviane Artigalas, puisqu'elle est arrivée en cours de mandat. J'ai travaillé avec Vincent Mérin, avec Jean-Marie Dupont, qui sont des garçons qui m'ont marqué, de par leur engagement, de par les dossiers qui ont été portés. Tout à l'heure, Cécile parlait de l'accompagnement des personnes âgées. Bon, il faut savoir que sur le territoire du pays des Vallées des Gaves, il y avait une OPH, une opération pour l'amélioration de l'habitat, qui permettait à des gens qui étaient dans des conditions de précarité de pouvoir en sortir, et puis certains aussi de pouvoir adapter le logement au vieillissement et à l'accessibilité. Donc c'est des dossiers qui sont toujours en cours et qui ont eu du succès, et donc qui permettent le maintien à domicile, parce qu'avant tout, quand on peut maintenir nos parents ou nos grands-parents à domicile, je crois que c'est la priorité qu'il faut se donner. Donc j'ai été le représentant des communes de montagne au sein du comité de massif. Donc le comité de massif est une instance qui représente le massif pyrénéen et qui influence aussi la politique de massif. Il s'avère que ce comité de massif est composé de personnes qui sont des éleveurs, des gens qui sévissent dans les sports de pleine nature, des maires, des conseillers généraux, des parlementaires, qui sont là pour réfléchir sur le devenir de la montagne. Bon, moi, j'ai pu exprimer certaines craintes, et c'est le sujet que je vais développer à l'heure actuelle qui me semble le plus important. Nous sommes dans un département et dans un canton, qui est un canton touristique, et dont je crois que c'est la première des prérogatives, c'est le premier la première activité qui nous permet de pouvoir faire qu'on puisse trouver du travail en complément de l'élevage, en complément de l'agriculture. Donc on se trouve avec des gens aujourd'hui qui sont qui travaillent une partie de l'année sur leur propriété, une partie de l'année sur les stations de ski, une partie de l'année dans les établissements thermaux, et dans tout ce que cette activité touristique peut engendrer. Il s'avère que sur le territoire, on a pu compléter l'activité touristique d'été avec le thermalisme, avec les sentiers de randonnée, avec le VTT, avec un fort développement aujourd'hui sur tout ce qui est vélo, donc avec la labellisation de nos circuits de VTT, mais aussi avec des chronométrages de montée de col. On a beaucoup de gens qui viennent aujourd'hui et qui veulent se mesurer sur les cols parcourus par le Tour de France. On a la chance d'avoir des grands sites, on a la chance d'être au carrefour de montagnes et de vallées prestigieuses et qui, à elles seules, drainent du monde. On a le patrimoine mondial de l'UNESCO à Garmi, on a le Puy du Midi, on a le lac de Gove, puis on a aussi, pas trop loin de chez nous, les sanctuaires de Lourdes avec tout ce qui gravite autour du culturel. Mais il nous faut tout ça pour vivre sur notre secteur et pour pouvoir y trouver de l'emploi. Aujourd'hui, ce qui me semble être vraiment difficile, c'est la survie des stations de ski. Donc, en ma qualité de représentant des communes de montagne, j'ai souhaité, il y a 2 ans et demi, sensibiliser nos gouvernants sur le fait qu'on allait dans le mur si rien n'était fait. Donc, j'ai saisi le cabinet du Premier ministre qui m'a accordé un rendez-vous. Donc, un de ses conseillers m'a reçu à Matignon en octobre 2012. Et j'ai pu, au travers du dossier que je connaissais le mieux, qui était celui de la station de Lussardinet, exprimer mes craintes par rapport au devenir de ces outils indispensables pour pouvoir permettre une vie toute l'année. Bon, il s'avère que, à la suite de ce rendez-vous, j'ai pu avoir aussi audience avec la Chambre régionale des côtes et les magistrats qui la composent pour pouvoir exprimer les mêmes craintes, ce que j'ai fait également l'année semaine qui suivait au comité de massif. De ces rencontres, a été déclenché un audit général sur l'ensemble des stations de ski, donc qui est sorti il y a quelques jours, et qui a fait ressortir qu'elles étaient toutes dans une santé qui n'était pas terrible et qu'un danger se profilait, puisque si vous avez pu lire le rapport, il était question de devoir fermer peut-être les petites, regrouper celles qui sont un peu plus importantes, et de mettre en synergie tout ce qui pouvait l'être pour faire des économies d'échelle et entrevoir peut-être un avenir un peu plus important, un peu plus sérieux et un peu plus concret. Donc, j'ai voulu faire ressortir ça. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans la mesure où notre canton et ses nouvelles limites font état de 5 stations de ski plus une station de ski de fond. Et que si on ne capitalise pas sur la chance qui nous est donnée aujourd'hui de pouvoir réfléchir en commun sur ce territoire, on ira certainement vers des difficultés. Donc, je pense que si demain je pouvais avoir la chance avec mes collègues d'être le représentant, et si vous nous accordez votre confiance, c'est certainement une des missions, puisque le tourisme est une mission partagée, c'est une mission que je demanderai à ce qu'on veuille bien me confier pour tenter d'aller chercher tout ce qui pourrait permettre de pouvoir avoir un avenir pérenne en la matière. Bon, je voulais vous dire aussi que nous sommes des socialistes et que c'est pas facile d'être socialiste aujourd'hui, mais que bon, ça ne nous effraie pas. Bon, je crois qu'il n'est pas plus facile d'être radical de gauche, qu'il est plus facile d'être UMP ou je ne sais trop quoi. La difficulté ne nous a jamais fait peur. Nous sommes des gens de combat, on a toujours affronté les difficultés avec beaucoup d'optimisme. Et donc, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez, au travers de votre bulletin de vote, nous permettre de pouvoir l'exprimer réellement dans quelques jours. Alors, au premier tour, peut-être pas, mais on votera sur vous au second. Et pour qu'il y ait le second, il faut qu'on soit premier. Parce que, bon, en ce qui nous concerne, on est des gens de gauche, il y en a. On l'a dit, et j'en profite pour le répéter aujourd'hui publiquement, si vous nous faites confiance, ça ira. Si vous ne faites pas confiance, eh bien on donnera la confiance à celui de gauche qui sera le mieux placé. Bon, on a du mal à imaginer cette situation parce qu'on a déployé une énergie considérable pour aller chercher des voix, et on espère que vous donnerez ce qu'on a besoin pour vous représenter. Bon, je voudrais continuer aussi sur ce qu'a évoqué Caroline tout à l'heure à savoir que les circuits courts c'était assez important et qu'aujourd'hui il fallait aller vers le développement durable, vers tout ce qui était de nature à faire que les produits qui sont réalisés sur le territoire puissent être consommés sur le territoire. Mais pour ce faire, il faudrait quand même un abattoir. Donc on a perdu l'abattoir du Pétoil lors des dernières inondations. Et donc, on trouve quelques difficultés aujourd'hui à trouver un terrain qui correspondrait à ce que les normes imposent aujourd'hui sur notre territoire, sachant qu'en parallèle, le problème viendrait de ce que l'AOC et le cahier des charges qui est en face de l'AOC imposent que l'abattage puisse se faire sur le lieu de production. Donc je pense que si on arrivait à faire sauter ce petit verrou, on n'aurait peut-être pas trop de difficultés à faire l'unanimité pour qu'un abattoir sur le nouveau canton voit le jour, et il pourrait y avoir des endroits propices pour le faire. Donc on parlait ces jours-ci de Soulom, avec le maire de Soulom, il paraît qu'il devrait se faire un abattoir à Soulom, ça serait bien que je le sache. Alors on a dit, bon, nous on n'est pas les promoteurs, on est des gens qui pouvons accompagner la démarche et la soutenir si elle venait à voir le jour, parce que c'est quand même les collectivités qui doivent s'emparer en premier du dossier, et ça fait partie de leur prérogative. Mais quand quelqu'un nous a soufflé que ça pourrait se faire éventuellement à la porte des vallées, parce qu'on est déjà propriétaire de l'emplacement, que c'est proche de la deux fois de voie, que après tout, bon, c'est à 150 mètres des habitations, et que pourquoi pas, ce projet pourrait se réaliser là. Bon, on verra bien comment les gens souhaiteront l'implanter et où ils souhaiteront l'implanter. Toujours est-il, c'est que bon, on voulait dire ce soir qu'on on a la volonté de pouvoir accompagner cet investissement qui est primordial pour qu'on puisse maintenir un élevage sur notre territoire. On n'imagine pas, c'est vrai qu'un abattoir, c'est toujours déficitaire, c'est souvent déficitaire. Bon, si on est 90 à partager le déficit au lieu d'être 17, ça sera plus facile à digérer. Dans tous les cas, ce n'était pas un gros déficit, mais il faut le mettre en face des conséquences qu'entraînerait la non-présence d'un abattoir, c'est-à-dire qu'il faudrait créer des brigades parce que l'élevage disparaîtrait. Et si on doit payer des gens pour entretenir nos paysages, ça coûtera certainement beaucoup plus cher. Donc c'était un peu ce qu'on voulait vous dire au niveau de ce qui concerne le pastoralisme et l'agriculture. Après, on parlait d'emploi, on parlait de développement d'emploi. Donc il y a un pôle d'excellence rurale sur le site de des anciennes industries à Pierrefitte-Soulom. Donc c'est un projet qui a été porté au travers d'un concours sur lequel avait travaillé André Pujot ici présent avec Vincent Mérin, avec d'autres élus, dont Jean-Marie Dupont aussi, et qui était destiné à redonner vie à ce site industriel de Pierrefitte pour pouvoir y recevoir quelques artisans, quelques petites boîtes qui auraient envie de venir s'installer. Donc le travail a commencé à être mis en route il y a un peu plus d'un an et demi, et il s'avère que bon, il a été mis à mal un peu au moment des inondations, et donc je crois qu'il ne faut pas perdre patience et que ce serait bien que on s'implique derrière pour pouvoir faire en sorte d'amener quelques emplois sur le fond de vallée. En ce qui concerne la solidarité et l'implication des élus de ce territoire, moi je voulais signaler qu'on a pu constater vraiment au moment des crues des gens qui étaient vraiment soudés, qui avaient envie de faire avancer ce territoire et de réparer dans les meilleurs délais et d'enlever les stigmates de tout ce qui a été venu détériorer nos paysages. Bon, moi j'aimerais bien qu'on puisse retrouver dans les années à venir cette volonté pour faire avancer le pays tout entier. Alors certains ont mis en avant la réactivité qu'avait pu avoir le Conseil général sur la remise à l'état des routes. Bon, moi je me félicite aussi de ce qui a été fait. Alors je signale simplement qu'on appartient à la majorité départementale, qui est composée de radicaux, de socialistes et du Front de Gauche, que j'espère qu'on retrouvera cette majorité à l'issue des élections. Dans tous les cas, on a été rassurés de savoir que les routes restaient dans le giron du département. Bon, on était quand même déjà rassurés, puisqu'il y a quelques jours, on avait rencontré Carole Delga, donc Carole Delga, qui est aujourd'hui ministre de l'Artisanat et du Commerce, et qui abandonnera le poste dans quelques jours, puisqu'elle va se consacrer à la campagne électorale pour les prochaines élections régionales. Donc, Carole Delga, elle a été remplacée par Viviane Archigalas, ici présente, quand elle a été nommée, ministre. Viviane est devenue deuxième vice-présidente de la région. Moi, je me félicite d'avoir Viviane à nos côtés. C'est une battante, c'est une fille que j'ai connue au lycée d'Argelès, où on était à la même époque, on a le même âge. Elle a été plus loin que moi, mais moi, je suis très heureux de ta réussite, Viviane. Je suis heureux aussi de la manière dont tu t'occupes de nos dossiers quand tu te les fais passer. Et je trouve que c'est important pour notre vallée d'avoir quelqu'un qui puisse défendre et porter les couleurs de ce nouveau canton et qui sera, je n'en doute pas, aussi efficace qu'elle a pu l'être dans les six dernières années où elle est venue inaugurer énormément de réalisations sur le bus. Donc Carole Delga, nous l'avons rencontrée il y a à peu près un mois à l'occasion de la campagne électorale et bon, elle nous avait dit que la compétence route n'était pas maintenue au département, mais elle, par convention, elle nous la transférerait parce qu'elle avait réellement conscience qu'il fallait une réactivité très proche du terrain. Donc, je pense qu'il est toujours utile d'avoir des relais aussi importants pour pouvoir faire avancer nos projets, parce qu'il s'agit toujours de personnes qui peuvent avoir une influence sur les aides et qui peuvent nous être attribuées. Donc j'en profite aussi au passage pour dire que mon rôle n'a pas été neutre au moment des crues, puisque j'en avais un peu marre d'entendre régulièrement parler la venue de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, à Lourdes, en boucle sur BFM, sur ITV. Et puis à un moment donné, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le ministère, et puis j'ai dit, bon voilà, si Manuel Valls vient demain à Lourdes, j'aimerais bien qu'il vienne chez nous parce que je crois que ça ne regrettera pas le déplacement. De visu, ça va compte dans quel état on retrouve notre pays. Et le lendemain, il est venu. Le lendemain, on a trouvé des simplifications dans les dossiers à déposer. On a eu très rapidement l'arrêté de catastrophe naturelle. Et avant de partir, il m'a dit, je pense que dans l'état où est notre territoire, je pense qu'il serait utile aussi que le président de la République se déplace et je lui demande de venir demain. Donc le lendemain, il était là. Il a pu constater vraiment le gigantisme de ce qu'on avait subi. Et de ce fait, je crois qu'on a pu obtenir, même si ça a mis un peu plus de temps, mais pour cause, parce que normalement, il est prévu des taux d'indemnisation qui sont appliqués chaque fois qu'il y a des cataclysmes et qui sont sur tout le territoire. Jusqu'à maintenant, ils étaient nés de problèmes qui étaient arrivés à bord de mer. Chez nous, quand ils se sont rendus compte des travaux qui devaient en découler, mais il fallait mettre plus d'argent, cette fois les communes se sont retrouvées complètement exsangues. Et aujourd'hui, il s'avère qu'on a eu des prises en charge qui dépassent dans certains endroits les 90%. Donc le reste à charge, même s'il est important pour les collectivités, il est plus facile à digérer. Donc c'est dire que bon, on n'est jamais plus fort que quand on est unis. Et donc on a toujours cherché, nous, à réunir les gens plutôt qu'à les diviser. Et que dans l'avenir, avec les camarades qui sont autour de moi, on essaiera de faire en sorte de réunir tous les 50 communes de ce territoire qu'on a parcouru et qui nous ont fait état d'un souci majeur, c'était de savoir ce que deviendrait le phare à 50. Le phare, c'est le Fonds d'aménagement rural. C'est un dispositif qui est mis à disposition des collectivités pour des investissements. Donc je profite de ce qu'il y a quelques maires ce soir ici présents pour leur dire que la philosophie qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui pour accompagner les communes en faisant en sorte qu'il y ait de l'équité, un tour de rôle et puis éventuellement de servir des priorités quand elles se faisaient jour, mais que nous, cette philosophie, on la conservera et que si demain vous nous faites confiance, on sera là pour vous accompagner et pour faire en sorte que vous ne soyez pas déçus de la manière dont on distribuera ce phare. Je suis donc à la cinquième réunion. Et il y a des choses que j'ai dit ailleurs, que je voudrais dire ce soir ici aussi, et que j'aurais peut-être pu oublier, donc si quelque chose, Cécile, te semble important que j'aurais oublié, tu peux me le signaler.
L'hôpital.
Ah, voilà. Merci. Merci, parce que c'est pas forcément l'hôpital. C'est bon, un engagement par rapport à la défense et des services publics. En général, moi, j'étais ce matin à 9h donc à Tarbes pour accompagner les manifestants des communes voisines qui sont aujourd'hui à se poser des questions de savoir si on ne va pas leur supprimer des postes et mettre à mal tout le travail qui a été fait depuis plusieurs années autour de regroupements pédagogiques intercommunaux. Alors il s'avère que c'est vrai que ça a été à un certain moment ce que prônait ou préconisait le ministère de l'Éducation nationale, c'était de rapprocher les établissements pour pouvoir faire des économies d'échelle. Bon, donc il y a des gens qui se sont vraiment livrés à l'exercice et qui ont été plus loin que ça parce que bon, il a fallu investir, il a fallu créer des cantines, du ramassage scolaire. Et puis bon, aujourd'hui, on se trouve dans le milieu rural à vouloir regrouper tout le monde autour de grands centres. Et on sait quelle est la difficulté après de faire venir des habitants, des médecins ou autres, quand il n'y a pas d'école, c'est impensable. Donc il faut qu'on soit fort et costaud pour faire en sorte que, et unis surtout, pour faire en sorte que soient défendus les établissements scolaires de proximité. Alors moi, je veux vous donner un petit exemple simplement par rapport à mon engagement, puisque en 2010, j'ai été confronté à la même situation. Et donc, on voulait nous supprimer un poste à l'école de Luce parce qu'on ne prenait pas en compte les enfants de moins de 3 ans. Or, des textes existaient qui disaient que quand on était en zone défavorisée, il fallait compter les enfants de moins de 3 ans. Donc moi, j'ai considéré qu'en étant en zone de revitalisation rurale, on était en zone défavorisée. Et donc, j'ai mis le ministère de l'Éducation nationale au tribunal administratif de Pau. J'ai perdu. Mais comme je suis pugnace, j'ai continué à la Cour administrative de Bordeaux. Et là, j'ai gagné. Et donc, pendant 2 ans et demi, sur le territoire national, la jurisprudence qui est née de cette décision portée par lui, c'est qu'elle a permis de sauver en zone de revitalisation rurale, sur tout le massif, énormément de postes. Donc je dis, il ne faut jamais lâcher, il faut toujours être présent, il faut toujours se battre pour ces choses-là. J'ai accompagné aussi quasiment la totalité des manifestations qui se sont déroulées pour la défense de l'hôpital de Lourdes. J'ai accompagné l'association à Toulouse pour aller rencontrer l'ARS de l'époque. Moi, j'étais un peu désolé des fois parce que je pensais que quand on faisait une manifestation pour Lourdes, il y avait quasiment tous les maires de la vallée, et puis quand on faisait une manifestation pour l'hôpital, des fois, il n'y avait que 4 ou 5, et ça m'a un peu désolé. Aujourd'hui, hier et avant-hier, pour des raisons familiales, je me suis trouvé à l'hôpital. Il y avait énormément de monde. Il y a déjà beaucoup d'emplois, mais il y a pas mal de gens aussi qui sont à faire la queue parce qu'ils viennent pour prendre des rendez-vous, des soins. J'avais du mal à imaginer qu'on puisse se passer de cet outil. Et pourtant, il est très, très, très menacé. Donc aujourd'hui, je pense qu'en tenant compte des informations qu'on a pu obtenir, qui sont très récentes, du 13 mars, concernant une batterie de mesures en faveur des territoires ruraux. Moi, j'ai pu lire dessus qu'il y avait des mesures concernant les hôpitaux. Je pense qu'il serait bien que sur les territoires, on se mobilise tous pour essayer de faire en sorte qu'on garde cet outil indispensable. Moi, j'ai du mal aussi à penser que la deuxième ville hôtelière de France, qui reçoit des millions de pèlerins, ne puisse pas être équipée d'un outil de ce niveau. Vous dire aussi que je me suis battu pour garder la gendarmerie à Luce. La gendarmerie va être reconstruite, on aura des nouveaux bâtiments d'ici quelques temps, le permis de construire est attribué. Bon, ça n'a pas été facile, ça a été une œuvre de longue haleine, avec des gens qui ont essayé de faire capoter le sujet. Mais bon, au travers de ces exemples, je voulais vous montrer quel était mon engagement, mais pour avoir discuté avec mes collègues et pour les connaître, je pense que le leur est identique quand il s'agit de défendre des outils comme ça de proximité qui sont utiles et nécessaires sur le territoire. Donc ça, c'était pour vous parler de l'engagement.